Bonjour, je salue tous les amis kurdes, français, bretons qui se trouvent dans la salle et qui m'écoutent. Je souhaite de tout mon cœur la réussite et le succès de cette exposition et de ce travail précieux. La liberté pour tous les prisonniers d'opinion, pour les journalistes qui sont emprisonnés dans les prisons d'Erdogan. Liberté pour Zahra Doğan aussi. Et merci à Maha Hassan de m'avoir mise en contact avec Laurent, le responsable de cette exposition. Merci beaucoup de m'avoir donné un peu d'espace, un peu de temps pour pouvoir vous parler un petit peu de ce qui se passe au Rojava. On peut appeler en effet ce qui se passe dans notre région une troisième guerre mondiale dans le centre et la Syrie. En effet, les grandes forces internationales veulent redessiner la carte du Moyen-Orient et se repartager la région et aussi assurer leurs intérêts économiques et politiques aux dépens des populations. Les régimes nationalistes et fascistes également ont chacun leur projet politique. Fin 2010 a commencé ce qu'on appelle, entre parenthèses, le printemps arabe, où la région est secouée par des soulèvements spontanés des peuples. Malheureusement, il n'a pas eu de vraie révolution dans les pays arabes. Et le printemps s'est transformé en hiver. Bien sûr, dans la foulée des revendications en Tunisie et en Égypte, la Syrie s'est enflammée. Et elle brûle toujours. En Syrie, le peuple s'est révolté en voulant changer son destin, vivre en dignité, trouver son identité. Il voulait se libérer du régime fasciste et totalitaire qui régnait depuis 40 ans. Niant la diversité et la richesse culturelle et ethnique et religieuse en Syrie. Le peuple en Syrie s'est révolté. Il avait des revendications justes. Mais très vite, les marchands des peuples et des agendas extérieurs ont vite déraillé et armé la révolution. Et les pays s'est écroulé. C'est-à-dire la Syrie s'est écroulée. Le pays a été détruit. Le pays a été vidé. Des milliers de morts et de millions de déplacés. Ceux qui se nomment les forces d'opposition syrienne à l'extérieur, liées aux agendas d'autres pays, n'ont pas eu un vrai projet pour résoudre les problèmes. Car elle ne représentait pas les espoirs du peuple et elles servent leurs propres intérêts. Leur seul souci était de faire tomber Bachar al-Assad. Le régime, de son côté, n'acceptait aucune opposition, aucun changement et tenait très fort au pouvoir. Au nord de notre pays, dans la partie nommée Rojava, que le monde entier sait très bien le situer sur la carte, surtout après la bataille historique de Kobané qui a mis fin à la légende de Daesh, nous avons choisi une troisième voie pour plusieurs raisons. Et l'étincelle d'une vraie révolution se brillait. Une révolution copernicienne a commencé le 19 juillet 2012. Et à partir de cette date, ce n'était plus l'État-nation qui composait le centre et le commandant, mais plutôt la société. Il faut dire que les Kurdes, les Arabes, les Assyriens et les autres minorités vivaient dans une grande prison. Nous avions tous besoin de la liberté et de la démocratie. Les forces politiques démocratiques sur place au Rojava, qui prenaient leur légitimité du peuple, ont su, avec beaucoup de sagesse, guider et diriger le peuple. Tout a été mis en question. Il fallait redéfinir tout. En effet, une vraie révolution sociale et culturelle, selon un nouveau paradigme, a commencé. Dans un Moyen-Orient qui n'avance pas, le vrai printemps des peuples s'est réalisé au Rojava, grâce au paradigme de l'État démocratique, dont le fondateur et le penseur et le philosophe kurde Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 19 ans en Turquie. Ce nouveau paradigme fondé sur l'idée de fraternité des peuples et la cohabitation, ainsi la protection de l'héritage culturel des peuples, l'égalité totale et la justice entre femmes et hommes, la laïcité, fonder une société politique, ethnique et écologique, il fallait trouver des institutions alternatives, réorganiser la société pour qu'elle puisse participer au processus du changement démocratique dans le pays. Toutes ces valeurs humaines et universelles ont pu traverser les frontières du Rojava. Au cours de l'évolution de la révolution, il fallait trouver un nouveau système pour diriger les régions libérées de Daesh et du régime. Le système du fédéralisme démocratique du nord de la Syrie représentait le modèle le plus logique et efficace pour unifier le pays qui est en voie de division, et pour également démocratiser le Moyen-Orient ensuite. Fondamentalement, ce système est fondé sur des divisions géographiques et non pas ethniques et religieuses. De cette façon, on a divisé les territoires du fédéralisme en trois régions. La région de Djazire qui contient deux cantons, Kamishlo et Hasake. La région de l'Euphrate qui contient deux cantons, Kobané et Grespi. La région d'Afrin qui contient deux cantons, Afrin et Chaba. Le système fédéral est le meilleur système pour trouver des moyens pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques dans un Moyen-Orient manipulé par le nationalisme, le fanatisme sectaire et le chauvinisme. Dans ce système, on prend en considération la représentation de toutes les ethnies, les religions et les deux sexes. Pour appliquer ce système, trois étapes ont été proposées par le Conseil constitutif du système fédéral du nord de la Syrie. 1. Les élections des coprésidents des communes, qui se sont déroulées le 22 septembre 2007. 7464 candidats se sont présentés pour la présidence de 3732 communes au nord de la Syrie. 2. Les élections des conseils des villages et des municipalités dans les villes qui se sont déroulées le 1er décembre 2007. Il y avait trois listes principales. En plus, il y avait des indépendants qui ont participé aux élections. Et le taux de participation a dépassé 79%. Les listes qui ont participé aux élections, on peut les énumérer comme ça. La liste de l'État démocratique, la liste de Sharba, la liste de l'Union patriotique kurde, la liste des indépendants. Et enfin, il y avait la troisième étape, c'était les élections du Congrès des peuples qui n'ont pas eu encore lieu. En fait, en parlant de la révolution au Rojava, on parle tout d'abord de la révolution par excellence de la femme. La liberté de la société passe par la liberté de la femme. En effet, on peut dire que le trait qui distingue le plus le mouvement révolutionnaire au Rojava, c'est la présence et la participation active de la femme kurde dans tous les domaines. La défense, l'éducation, l'administration, l'économie, la politique et la diplomatie. Dès le début de la révolte, la femme kurde avait une place centrale. La femme kurde a joué un rôle d'avant-garde, un rôle de base. Pas seulement pour la femme kurde, mais aussi pour toutes les autres femmes arabes et assyriennes et les autres femmes qui luttaient encore en Syrie. La lutte et le combat de la femme kurde se datent bien avant la révolution au Rojava. Elle a mené une résistance acharnée et un combat inédit, multiface et multiforme pour trouver sa vraie identité. Prouver qu'elle n'est pas le deuxième sexe et qu'elle n'est pas inférieure aux hommes. Et pour encore se libérer des tabous et des lignes rouges imposées par la mentalité masculine et les régimes autoritaires, et changer la vision de la société vis-à-vis d'elle. Dans le chaos que nous vivons dans la région et l'hégémonie des régimes despotiques et dictateurs, et dès le commencement du soulèvement populaire en Syrie, la femme kurde n'était pas passive. Elle s'est bien organisée. Elle a été obligée de prendre les armes et combattre à côté des hommes contre tous les mouvements terroristes qui ont attaqué le peuple au Rojava, comme Daesh et Al-Nusra, et d'autres groupes. Elle a pris les armes pour ne pas être une victime. En effet, en réalité, dans toutes les guerres et les conflits, tout au long de l'histoire, et jusqu'à présent, c'était toujours la femme qui souffrait le plus et qui subissait le plus les conséquences tragiques et désastreuses de la guerre. La femme kurde a prouvé sa capacité et son efficacité de mener des combats légendaires contre Daesh. Elle a pu mettre fin au mythe de Daesh à Kobané, mais également à Raqqa, sa capitale présumée. Toute la presse mondiale et les médias ont montré et diffusé les images des combattantes courageuses des YPG. Mais à mon avis, ce qui importe, c'est le chemin vers ces images. Autrement dit, comment la femme kurde est-elle pu parvenir à ce niveau ? C'est grâce aux analyses profondes et aux thèses d'Abdullah Öcalan concernant la condition de la femme et de la famille et aussi de la société que les femmes kurdes ont pu découvrir leur vraie histoire, qui a été écrite par les hommes. Voyant le niveau dégradé de la société kurde, Öcalan a commencé à se préoccuper de la question de l'émancipation des femmes et de ses droits. et la science de la femme généalogie a vu le jour. Comme philosophie sociale pour contrer les injustices subies aux femmes au Moyen-Orient et pour réécrire et redéfinir l'histoire tourmentée des femmes. En fait, le nouveau paradigme d'Öcalan a été une révolution intellectuelle pour la société kurde où un changement social significatif a été réalisé, notamment dans les relations sociales entre les femmes et les hommes et la place de la femme dans la société. La femme a eu des gains sociaux aussi. En 2014, l'auto-administration démocratique au nord de la Syrie a promulgué une loi sur l'égalité entre hommes et femmes. La prévention de la violence et de la discrimination à l'égard des femmes. L'interdiction de la polygamie. L'interdiction du mariage des femmes de moins de 18 ans. La loi stipule que les deux parties doivent supporter les coûts du mariage ainsi que la répartition de l'héritage à part égale entre les deux parties. La loi accorde aux femmes le droit de se présenter aux élections, de constituer des organisations politiques, économiques, sociales et culturelles. Et la loi abolit la dot comme valeur matérielle visant à posséder les femmes. Dans son livre « Démocratie moderne et l'ère de la révolution des femmes », Öcalan a déclaré que la libération des femmes est plus précieuse et plus nécessaire que la libération du pays. En fait, en parlant un petit peu des attaques de l'armée turque sur Rojava et particulièrement à Afrin, on sait très bien que dès le début des événements en Syrie, des pays régionaux comme l'Iran et la Turquie, font une guerre par procuration, c'est-à-dire une guerre indirecte à travers leurs groupes armés. La Turquie, qui prétend être un pays démocrate, n'a guère cessé de s'entremêler aux affaires intérieures de la Syrie et du Rojava. Plus particulièrement en voulant protéger ses intérêts et faire presser son projet radical des frères musulmans. Erdogan, qui enterre sa tête dans le sol comme une peluche et qui refuse de voir la réalité des choses, fermant ses yeux sur ce qui se passe chez lui, tente d'exporter la crise intérieure de la Turquie vers les pays voisins. La salle politique actuelle d'Erdogan dans la région a échoué vraiment. Et les rêves du sultan ottoman de conquérir la Syrie et de faire ses prières dans la grande mosquée des Omoyades à Damas se sont éparpillés. Jour et nuit, il réclamait la défaite de Kobané. Mais au contraire, le monde entier a été témoin de la victoire historique des YPG et des YPG et de la résistance de cette ville devant la force la plus sauvage, Daesh, financée et armée par la Turquie. Et ça fait des mois et des mois qu'ils menacent d'envahir Afrin et les régions de Shahba. Erdogan a une phobie vis-à-vis des Kurdes, car les Kurdes ont un projet démocratique. Erdogan est l'ennemi premier des femmes aussi. C'est pourquoi il a ordonné à ses mercenaires du bouclier de l'Euphrate d'exploiter, de vendre, d'enlever les femmes à Jarablus et Al-Bab et de tuer ceux qui s'y opposent. Les troupes armées par Erdogan commettent les actes les plus criminels et inhumains contre les civils. Et ils ont tué la seule sage-femme qui travaillait à Jarablus. Erdogan fait de la Turquie le paradis des terroristes, campement, financement, armement, et il a planifié de détruire la Syrie. Il a occupé des territoires de la Syrie, dans un silence international, malheureusement. Erdogan planifie de changer la démographie de la région, de turquiser les territoires sous son contrôle. Afrin est une région sécurisée. Elle a une administration. Et ça fait 5 ans qu'elle est devenue la terre d'accueil des milliers de déplacés venus de toutes les autres villes syriennes et même de l'Irak. En effet, on a 2 camps principaux qui accueillent les réfugiés, le camp de Roubar et le camp de Shahba, qui accueillent chaque jour des centaines de réfugiés. Erdogan, malgré tout ça, il nous accuse d'être des terroristes. Il nous bombarde jour et nuit. Mais aussi, il empêche les cultivateurs et les villageois de travailler dans leurs terres frontalières à la Turquie. Et les soldats d'Erdogan les tuent directement. C'est-à-dire quand ils approchent de la frontière. En plus, il arrache les oliviers. Il a arraché beaucoup d'arbres d'oliviers. Dans d'autres régions du Rojava, Erdogan coupe l'eau de l'Euphrate. Il essaye de toute façon, de toutes les façons, de maintenir l'embargo sur Afrin particulièrement.